Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Il dînait hier soir pour évoquer le sujet des retraites. Bon, vous allez voir, je vous donne les éléments dans un instant. Il y aura une réforme. Sur le contenu, on a à peu près l'idée générale. Sur la méthode, tout est ouvert. Amendement dans la loi de finances de la sécurité sociale ou une loi dédié au sujet en janvier 2023 ou une loi rectificative donc budgétaire début 2023, voilà. L'assurance chômage, on n'a pas non plus les arbitrages du gouvernement, mais il y a une vraie question qui se pose parmi les paramètres qui pourraient évoluer en fonction de la météo de l'emploi. Faut-il des règles, des paramètres région par région ? On trouve plus difficilement du chômage dans les Hauts-de-France qu'en Île-de-France. Piste qui, pour l'instant, a été écartée par Olivier Dussopt. Une prise de position que j'ai trouvée étonnante de la part de Bruxelles. Je vous le fais court, mais Bruxelles dit à la France « Votre RSA est beaucoup trop bas. Il y a des gens qui vont basculer dans la pauvreté. Il faut que les jeunes aient accès à un revenu minimum et il faut qu'il soit beaucoup plus simple sur le terrain administratif car les moins avertis sont découragés et n'y accèdent pas. » Il y a la question de la Grande-Bretagne, mais surtout de savoir si on risque de connaître le même sort, nous les Français, qui avons quand même des facilités budgétaires récurrentes. Et je disais hier, probablement que l'euro nous protège. C'est la question qui sera posée. On va parler de l'hydrogène. Le gouvernement a vraiment mis les pieds dans le plat, j'ai envie de dire hier, en décidant de subventionner à hauteur de plus de 2 milliards d'euros une dizaine de projets dans l'hydrogène. Et puis, on reviendra, puisqu'Emmanuel Combes est avec nous, sur la décision de l'autorité de la concurrence. Enfin, décision, sur ce qu'allait être la décision concernant la fusion de TF1-M6, ça allait être non. Et à chaque fois qu'il y a un refus de fusion-acquisition, il y a toujours un parfum de procès de ces autorités de la concurrence, en France comme aux États-Unis, pour savoir si elles n'ont pas fait preuve d'un peu de cécité, j'ai envie de dire. Alors, je suis désolé pour les messages d'auditeurs. J'ai oublié de recharger mon très, très vieux téléphone ce matin. Et sa batterie a tendance à se vider comme un pull qu'on effiloche. Donc, peut-être que
vous
je vais être
bien,
coupé.
Pardon? Vous voulez mon téléphone?
Ah, ben non, parce que vous n'avez pas mon compte Twitter. C'est là que ça... Si vous voulez réagir, c'est sur mon compte Twitter. Stéphane Carcillo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po. Vous avez co-écrit les discriminations au travail aux presses de Sciences Po. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Département, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances public et vous avez coécrit « Une autre voie est possible vers un modèle social écologique » chez Flammarion Champs Actuel. Emmanuel Combes,
bonjour,
bienvenue.
Nicolas.
Professeur à la Schema Business School, vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Et alors, le Précide Économie, qui est un manuel, le Précide Économie, 16e édition. C'est celui-là que vous avez écrit pendant le service militaire ?
Oui.
Je trouve ça fascinant.
Il faut bien s'occuper.
Il va au service militaire, il s'ennuie, il écrit un Précide Économie, qui est un livre de référence depuis combien d'années ?
1993, l'âge de mon service militaire.
Joli, joli, joli. Jean-Marc Daniel l'apprécie beaucoup, votre précédent, parce qu'il en a écrit aussi. Pourquoi il faudrait... Alors, je vous donne les news sur la réforme des retraites. Ok, on va concerter, pas négocier, concerter. Visiblement, c'est ce qui ressort de ce dîner. Il y avait plein de monde. Donc, plus il y a de monde, plus il y a de gens qui causent. Donc, on va concerter, mais la borne d'âge est bien destinée à être déplacée à 64 ans en 2027 et à 65 ans en 2031. Voilà. Alors, les éléments de concertation porteraient sur la question des carrières longues et de la pénibilité. Quant à savoir quel est l'outil législatif utilisé pour faire passer la réforme, tout peut arriver. La question, c'est pourquoi réformer, Éric Ayer ?
Oui,
pourquoi ? Moi, j'ai ma réponse.
D'accord. Alors, enfin, une première façon d'y répondre, c'est regarder la situation du système de retraite. Alors, donc là, le corps nous a donné la dernière photographie. Donc, que nous dit, enfin, quelle est ma lecture, en tout cas, de cette photographie ? C'est que, bon, il n'y a pas le feu au lac. D'accord ? Il y a globalement, le système est relativement maîtrisé dans ses dépenses, puisque même dans le pire des scénarios, bon, la dépense des pensions, ça va représenter 14 points de PIB. C'était 14 points de PIB aujourd'hui, ça va être 14 points de PIB à quelque chose. Et il y a quand même une grande probabilité que ça soit en dessous. Donc il n'y a pas de dérapage du côté des dépenses, mais tout de même, il y a un déficit.
Qui se creuse, nous dit le corps, année après
alors,
année.
Oui, alors ça dépend encore une fois des hypothèses, mais c'est peut-être ça la meilleure réforme, c'est qu'on n'ait plus cette incertitude sur notre système à 20 ans. Et cette incertitude, c'est en fonction de la productivité du travail. Et ça, c'est à cause de la réforme de 93. Je pense qu'il faudrait revenir sur cette réforme de 93, Balladur.
Vous nous rappelez ?
C'est-à-dire que globalement, avant, les pensions et les recettes étaient indexées sur les salaires. Donc, quel que soit le niveau de productivité, il n'y avait pas de problématique. Est-ce que ça allait être plus ou moins fort ? Maintenant, depuis 93, les recettes, c'est toujours indexé sur la productivité et les salaires, d'accord ? Alors que les pensions sont indexées sur les prix.
Les prix.
Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que selon le niveau des salaires par rapport à l'inflation, vous pouvez avoir soit un gros déficit, soit des excédents. Vous voyez, c'est quand même curieux, quand même, qu'on ne sache pas dire, là, aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir, on peut être en excédent de notre système de retraite sans réforme ?
Oui.
Selon certaines hypothèses, c'est possible. Bon, ça, c'est pas normal. Il faudrait qu'on remette une indexation sur les salaires des pensions. Voilà, ok. Donc ça serait...
C'est ça la réforme,
en fait. Ça serait une réforme, en tout cas, qui nous permettrait de voir plus clair sur quel est le bilan. Ok. Donc ensuite, quand on voit cela, on dit le plus probable, c'est que la productivité soit à 1%. Allez, c'est dans le scénario, pour moi, c'est le plus probable. Et là, dans ces cas-là, il y a un déficit. Un déficit d'à peu près un demi-point de PIB de façon structurelle. Donc, vous voyez, la première façon de répondre à votre question, c'est il faut trouver un demi-point de PIB, c'est à peu près 10-12 milliards, d'accord, pour répondre, parce qu'effectivement, le régime des retraites...
Borne d'âge.
Ne doit pas
borne
être...
d'âge.
Parce que oui, c'est important, le régime des retraites ne doit pas être déficitaire.
En théorie, une assurance n'est pas déficitaire.
Exactement. Donc, du coup, alors, transitoirement, oui, ça peut l'être, mais structurellement, non. Donc, effectivement, il faut une réforme pour trouver, mais... 0,5 points de PIB, c'est à peu près ça la réforme. Et donc c'est là où il faut maintenant entrer, il y a les paramètres standards, bien entendu. Alors attention, pourquoi on arrive, alors qu'il y a plus de retraités demain, à avoir des dépenses qui sont contenues à 14 points de PIB au maximum, mais sans doute le plus probable en baisse, c'est parce qu'on fait déjà baisser les pensions. D'accord, les pensions, il faut bien le dire à tous les auditeurs, aujourd'hui sans réforme, les retraités vont perdre à peu près 20% de leur pouvoir d'achat relatif aux actifs. Bon, c'est un choc qui est quand même assez violent. Donc soit on continue là-dedans, c'est-à-dire qu'on paupérise encore un peu plus les retraités, soit on demande aux actifs un petit effort, soit via les cotisations.
Chaque fois, le gouvernement dit non à ces deux pistes.
D'accord. Alors que, vous voyez, Michael Zemmour fait son calcul, c'est vrai qu'il est relativement correct, c'est il faudrait 2 euros, enfin en tout 4 euros d'augmentation des cotisations par mois, par salarié. Bon, vous voyez, c'est pas un choc non plus extraordinaire, mais c'est vrai qu'en période de baisse de pouvoir d'achat, ça serait un peu sans doute
le message difficile. On a un problème de salaire net et on va encore vous le réduire.
Ok, c'est donc dur. C'est vrai. Même si la hauteur du problème, c'est 4 euros. Hein. Bon. 4, c'est pas non plus énorme. Vous voyez, c'est pas comme on entend, le système des retraites va dans le mur, c'est la faillite.
Pour avancer,
etc.
Pour avancer,
c'est
4 euros. Oui, pour avancer.
Et d'accord. Et après, du coup, il y a les deux bornes. C'est soit l'âge, soit la durée.
Ouais.
Et ça, je pense que... Enfin, je vais laisser la parole. Mais moi, j'ai une idée. Mais je pense que le plus efficace, c'est la durée. Le plus efficace et juste, c'est la durée. C'est absolument pas l'âge. Parce que l'âge, ça ne va absolument pas mordre sur le taux d'emploi des personnes qui pourraient travailler plus. Vous voyez, je le dis juste en un mot. Moi, on a tous... Enfin, beaucoup d'entre nous ont fait un bac plus 4... Bac plus 5, voyez, et ben là, que vous augmentiez l'âge de 62 à 65, ça ne va rien changer. On a commencé à travailler à 22 ans.
Oui, oui, je vois ce
22
que
plus 43
oui, oui.
égale 65. De toute manière, ça ne changera rien. Ça va juste demander plus d'efforts à des salariés qui ont commencé à travailler très tôt. Et ça, entre nous, c'est quand même pas très juste.
Alors là, il est certain que la durée de cotisation, c'est celle qui tient le plus compte de la durée de carrière, beaucoup plus que la borne d'âge. Et l'accélération du calendrier Touraine serait le truc le plus indolore à faire passer. J'achète bien l'explication. Après, à la question pourquoi,
il y a peut-être d'autres.
À l'évidence, ce que ne cesse de répéter le gouvernement et ce qu'a dit Elisabeth Borne encore lundi sur BFM TV, on a besoin de sous pour faire le verre,
faire autre chose.
Pour faire autre chose. Okay. L'école.
Okay, mais c'est pas les retraites.
Stéphane Garcio, par rapport à ce qui a été dit, est-ce qu'une réflexion vous vient, une opposition à suggérer par rapport à ce qu'a dit Eric hier.
Non, je pense que le vrai pourquoi, il y a évidemment le fait qu'une assurance ne doit pas être déficitaire et que donc du coup il y a des paramètres
un peu plus
à régler.
Près le micro, Stéphane.
Il y a également le fait que il faut voir l'ensemble des dépenses sociales. Aujourd'hui, il y a trois sources de déficit, hein, le budget de l'État, la santé, les retraites et puis de manière marginale l'assurance chômage. Aujourd'hui, si on veut investir dans l'école, si on veut revaloriser les salaires des enseignants, si on veut revaloriser les salaires des soignants, investir dans notre système de santé, préparer la transition, il faut de l'argent, et ça, ce sont des dépenses d'ailleurs, je dirais, qui investissent dans le futur, dans notre santé, dans l'éducation et les compétences de nos jeunes.
On va les qualifier d'investissement et pas de fonctionnement.
Voilà. Et dans ce système, on a beaucoup de besoins, sachant qu'on est déjà à un taux de prélèvement obligatoire maximum et un taux de déficit relativement élevé avec un taux de dette qui monte. Il faut trouver des endroits où on fait des sources d'économies pour réduire les déficits existants.
C'est super rationnel ce que vous dites là.
Et en gros, on va là où il y a des grosses masses. Et là où il y a des grosses masses, en particulier, c'est sur le long terme, c'est la retraite. Donc c'est logique. Et des différents paramètres, il y en a effectivement deux qui ont un effet important parce qu'ils jouent à la fois sur les cotisations et sur les dépenses. C'est la durée de cotisation, les trimestres, et puis l'âge. Alors, je suis un tout petit peu en désaccord avec ce que vient de dire Eric hier sur durée versus âge. L'âge a un avantage, c'est que c'est un point focal.
C'est ça. C'est comme une anticipation d'inflation.
C'est beaucoup plus clair pour tout le monde d'avoir ce point focal qui augmente parce que toutes les anticipations, y compris, vous avez les nombres de trimestres, les gens ne les connaissent même pas.
Ouais.
Donc, ils le connaissent quand ils vont sur le site pour faire des simulations. L'âge, c'est très très clair et du coup, ça les projette dans un âge de retraite normal. Alors, modulo les carrières longues, la pénibilité, etc.
Je ne sais pas ce qu'on peut trouver comme solution pour les carrières longues si la borne bouge.
Mais c'est très important pour les individus pour se projeter et savoir qu'ils vont rester sur le marché du travail, qu'il faut investir, qu'il faut peut-être se former, faire un mouvement de carrière, etc. C'est aussi très important pour les entreprises. Parce qu'elles savent que quand elles investissent dans quelqu'un qui, elles embauchent quelqu'un qui a 50 ans, il y aura potentiellement non plus 12 ans, mais 14 ou 15 ans, et que du coup, ça vaut le coup d'investir. Alors, cet effet focal, il faut pas le sous-estimer, à mon avis.
C'est la raison pour laquelle. Il a été vérifié par le passé. Quand on regarde la Fillon, 62 ans, on voit bien que ça a eu cet effet que vous
décrivez. Voilà.
Ah, il est pas d'accord.
Alors, non, mais c'est très très dur.
On fait pas toute l'émission dessus, hein.
Non, mais c'est dur de savoir ce qui, dans l'augmentation des trimestres et dans l'âge, a provoqué l'augmentation du taux d'emploi. Ce qui est certain, c'est que le taux d'emploi des seniors a augmenté de manière continue et on sait que c'est lié aux réformes des retraites. Ce qui est certain aussi, et là c'est un peu quelque chose qui est un petit peu contrebalance la réforme des retraites, c'est qu'il faut prévoir des mesures d'accompagnement en plus. Parce qu'on sait que quand on augmente la durée de travail, pour 50% des salariés, c'est possible de rester en emploi. Pour 50%, aujourd'hui, au moment où vous le faites, en tous les cas, c'est-à-dire que dans les années qui suivent, les gens ne sont pas très bien préparés. Peut-être que quelques années plus tard, les générations d'après sont mieux préparées, mais au moment où vous le faites, il y en a quand même 50% qui ne restent pas en emploi. Et il y en a environ 20% qui vont vers le chômage, parce qu'on a aussi un système de chômage plus long pour les seniors.
36 mois et pas 24.
Et 30% qui vont vers l'invalidité. Et donc, on fait des économies. C'est clair, il faut pas sous-estimer qu'il y a aussi
les
un
dépenses,
petit coût
parce
qu'il y a quand même des dépenses qui se rajoutent, donc en net les économies sont un peu plus faibles, c'est très clair. Et en gros, il faut vraiment prévoir aussi un plan senior et en accompagnement de cette mesure pour simplement aider les gens à rester en emploi.
La conclusion de ce que vous dites tous les deux, c'est oui, il faut bien faire quelque chose, quoi.
Oui.
Bah oui. Bah on va. Je ne sais pas si Emmanuel veut rajouter un truc.
Non, mais simplement peut-être pour élargir le sujet. Je suis moins expert que Eric et Stéphane sur ces sujets, mais le maître mot derrière tout ça, c'est taux d'emploi quand même.
Ah bah oui.
Et on sait que le taux d'emploi en France, de mémoire, il doit être à peu près dans la moyenne de l'OCDE, 67%, quelque chose comme ça.
Un petit peu en dessous. Deux points
en dessous.
67 contre 69.
Ouais. Donc si on regarde par rapport aux pays du sud de l'Europe, c'est clair qu'on est plutôt bon. Mais si on regarde par rapport aux pays nordiques, et là j'ai l'impression qu'on traite le sujet par la fin de carrière. Il y a aussi la réforme de l'assurance chômage qui a aussi un impact sur le taux d'emploi, mais on parle finalement assez peu de l'entrée dans la vie active, et je pense en particulier aux décrocheurs scolaires, qui est un vrai sujet. Si on veut augmenter le taux d'emploi, il faut agir sur la fin de carrière, mais aussi sur le début de carrière. Et là, on a un sujet, je ne sais pas si vous avez vu l'article dans les Échos sur le niveau en lecture des élèves. La question lancinante des décrocheurs scolaires, c'est aussi indirectement un facteur qui explique le fait qu'on ait un taux d'emploi qui n'est peut-être pas celui qu'on pourrait avoir.
Alors je vous fais réagir, Eric Besson, ça m'a fasciné. C'est le dispositif CEDRE du ministère de l'Éducation nationale. Qui a remis ses conclusions. Le niveau en français baisse au collège. L'écart filles-garçons se creuse en faveur des filles, mais l'écart a doublé depuis 2015. Et 40% des collégiens en troisième disent qu'ils n'ont pas le courage d'entamer la lecture d'un texte d'une page. Et alors quand vous regardez ceux qui sont en retard, trop âgés par rapport à l'âge normal, il y en a de moins en moins qui sont en retard. Mais ceux qui sont vraiment en retard, là, les difficultés explosent. C'est très impressionnant. Pour conclure le sujet des retraites, oui, peut-être Éric Guillard, mais il y a un truc qui...
Bon. Oui, parce qu'en gros, global, le problème, ça a été dit, c'est le taux d'emploi.
Oui. Oui,
si vous voulez financer, comme le dit Stéphane, un certain nombre d'autres dépenses, d'accord, c'est avec le taux d'emploi qu'on va y arriver. Si on veut financer même les retraites, c'est avec le taux d'emploi. Donc, tout est une question de taux d'emploi et on a des difficultés au début de la distribution et à la fin de la distribution. Mmh. Ok, on le sait. Là, moi, ce que je trouve, c'est qu'on le vend à l'envers. C'est qu'on nous dit, on le fait pour le système des retraites. Non, on le fait pas pour le système des retraites. C'est comme l'assurance chômage, on le fait pas pour l'assurance chômage. On le fait pour d'autres raisons. Alors, pourquoi pas dire...
Mais on l'a dit.
Pourquoi pas dire, donc du coup, on fait une réforme pour augmenter le taux d'emploi. D'accord, c'est ça notre réforme. Mais alors du coup, on le prend différemment. On n'est pas en train de dire, tiens, les retraités sont des privilégiés ou les actifs, machin. On dit pas les chômeurs sont des feignants ou pas. On dit, on va essayer d'augmenter le taux d'emploi. Donc comment on fait? On a des difficultés au début, d'accord? Et ben on va essayer de qualifier les jeunes. On a des difficultés à la fin, donc on va travailler sur les conditions de travail, sur la pénibilité. Donc du coup, on prend le problème à l'envers, d'accord? Et ça, moi, je pense que ça serait bien plus juste, bien plus clair de nous dire, on a un objectif, c'est d'être à 70 points de taux d'emploi.
J'entends,
et on fait toutes les politiques. Oui. Et si dedans il faut augmenter l'âge de départ à la retraite parce que on m'explique que, et on me certifie que c'est ça.
Ça devient un élément.
Ça devient un élément. Alors que là on nous dit c'est notre système de retraite est en faillite. Mais non.
C'est super important.
Non mais la façon de dire.
Oui mais c'est tout la façon.
Je vais être un peu vulgaire. La façon de raconter l'histoire.
Bah, non c'est pas qu'une histoire.
Mais oui je sais bien. Je suis un peu.
C'est revenir quand même à la macro de base. Enfin pardon le taux d'emploi c'est agir sur la quantité de travail. La croissance elle dépend.
Combien il y a de bras qui travaillent par rapport au nombre de bouches.
Et pour expliquer que la productivité est quand même très faible, Eric l'a dit tout à l'heure, de l'ordre de 1% dans les meilleures prévisions. Alors après, on peut agir sur la productivité à très long terme, notamment via la concurrence, c'est un autre sujet. Mais à productivité donnée, il n'y a pas 50 000 solutions pour accroître la croissance potentielle, c'est augmenter la quantité de travail. La quantité de travail, ça s'appelle grosso modo le taux d'emploi. Si on racontait cette histoire-là, que je pense tout Français peut comprendre quand même, que la croissance, ça dépend de trois facteurs, l'investissement, la quantité et la productivité. Là, en effet, la réforme des retraites ne devient qu'un moyen.
Oui, ça sert de faire du brainstorming en direct à la radio et la télévision.
Non, bien sûr, mais sauf que faire extrêmement, quand il s'agit d'augmenter le taux d'emploi des seniors, on a encore 10 points de retard par rapport à la moyenne de l'OCDE. On est à 50% par rapport à 60% sur les 55-65 ans. Et on a augmenté ce taux d'emploi de 10 points en 10 ans, quand même, pratiquement. Donc, et les études montrent qu'en fait, c'est le facteur numéro 1 pour faire ça. Le facteur numéro un, de premier ordre, c'est la durée de cotisation / l'âge, parce qu'on ne sait pas très bien lequel des deux, probablement la durée, parce que c'est ce qui a le plus bougé en France. Les mesures d'emploi, les mesures d'accompagnement, etc., elles sont très importantes, mais elles jouent probablement en second ordre. Elles sont essentielles, mais elles jouent probablement en second ordre. Donc, ça veut dire que même avec cet objectif, sachant que on a un problème aux deux âges, aux deux extrémités de l'âge actif, c'est un paramètre vraiment important.
Je suis terrifié parce que je faisais mon calcul dans ma tête. Moi, c'est 67 ans, là.
Mais tout le monde le fait. C'est pour ça que je suis pas complètement d'accord. À partir de 50 ans, on vous envoie une lettre.
J'ai dû commencer à 25 balais.
Et on vous dit, à partir de 50 ans, combien vous avez déjà cotisé. Donc, tout le monde sait faire un calcul comme ça. Et moi aussi, je l'ai fait. C'est 67 ans. Donc, du coup, on parle de 65 ans. Ça ne va pas me toucher. Et c'est ça qui est quand même très injuste dans cette réforme.
Mais bon, alors, admettons que l'idée de concerter sur les carrières longues et la pénibilité peut déboucher sur quelque chose. C'est que si des gens ont des bonnes idées. Je sais pas s'il y a des bonnes idées, mais.
Entre nous, enfin, il y a l'autre statistique, mais qui a été un peu déjà dite par Stéphane, mais 35% des personnes qui prennent leur retraite, c'est pour des raisons médicales, à 62 ans. 35%. Oui, donc en gros, c'est parce qu'on n'est pas bien dans le travail, on est fatigué, on est pénible, qu'on ne peut pas travailler plus longtemps. Donc vous pouvez dire, mais si tu vas travailler plus longtemps, des raisons de santé.
J'ai pas de données chiffrées, statistiques, mais. Est-ce qu'en France, on est plus usé par le travail que dans les autres pays qui sont voisins? Je sais pas, parce que on a l'impression que c'est le sujet numéro un et que la vie en bonne santé, c'est dramatique. Comment font les autres qui ont mis des âges à 65, 67 et qui...
Ils ont prévu aussi des clauses, des dispositifs qui permettent de sortir.
Oui.
Ce qu'ils ont en revanche évité de faire, c'est dans la plupart des pays qui ont ces dispositifs qui permettent de sortir plus tôt avec un taux plein, on évite de le faire par filière ou par secteur. ou par métier. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, on recrée des sortes de régimes spéciaux. On essaie de le faire vraiment sur conditions médicales, exposition à des risques très très précis, ou sur des conditions médicales qui sont bien certifiées. Voilà. Donc c'est individuel, c'est vraiment individualisé. Ça, c'est un peu l'enjeu de la gestion de la pénibilité.
On avait fait
les carrières longues, c'est autre chose. C'est des gens qui ont commencé à travailler très très tôt, mais sur la pénibilité, là, pour le coup, il faut éviter de recréer toutes sortes de régimes, des multiples régimes spéciaux.
On avait fait des critères de pénibilité, je sais plus trop où on en est, il y en avait 10 ou 11. C'était, ouais. Les entreprises disaient c'est ingérable. Si vous êtes sous l'eau, si vous portez des charges lourdes, à quel moment.
C'est très dur à gérer, bien sûr.
Bon. Mais oui, non, mais juste un mot, parce qu'il reste 40 secondes ouais. Apparemment. Mais
ah bah, il est globalement... un peu professionnel, Eric, hier. Maintenant, il gère le temps comme moi.
Mais il y a des enquêtes quand même sur la valeur travail, etc. Vous voyez, en gros, je le fais vite, c'est sur 180 pays. Quand on pose la question dans tous les pays, où est-ce que vous mettez la valeur travail, les Français, c'est tout en haut. Ouais. J'ai plus le classement, mais c'est tout en haut. En revanche, la question, c'est est-ce que vous épanouissez au travail ? C'est tout en bas.
C'est super important ce
guide. Mais oui, ouais. Et donc, du coup, vous voyez, peut-être la meilleure des réformes, c'est retravailler sur le management. Ouais. Comment, dans l'entreprise, oui. On essaye d'intéresser les personnes.
C'est quand même super documenté, ouais. Ça, en sociologie, le rapport au travail, non pas au travail, le rapport à l'entreprise, avec l'idée que c'est une malédiction. Et ça, c'est quand même la manière dont fonctionnent nos relations de travail, nos relations sociales.
Mais de la même manière que la crise que nous traversons va précipiter la transition verte, ce qui va précipiter ce que vous décrivez, ce sont les attentes nouvelles des jeunes recrues. Quand on demande au cabinet de recrutement si les choses ont changé, c'est même pas les choses ont changé.
Non, c'est la révolution.
Volte-face de ce qu'attend un jeune 2022 pour rentrer sur le marché de l'emploi. Bon, évidemment, il peut se permettre d'avoir des attentes s'il a un bac.
C'est ça la meilleure réforme. C'est se préparer.
Mais la meilleure.
Les taux d'emploi vont augmenter.
Vous êtes suffisamment expert, Eric, pour savoir que les réformes, tous les sujets sont multifactoriels. Bon, voilà. On va dire un mot de l'assurance chômage. Bon, on va essayer d'aller vite parce que je connais le point de vue de Stéphane Carcillo. Il est très renseigné sur le fait que le paramètre qui a un effet, c'est la durée de cotisation et seulement la durée de cotisation. Et nous, d'indemnisation. Et nous indemnisons plus que les autres, 24 mois jusqu'à 36 mois pour les plus âgés. Mais voilà. Et alors là, je vous interrogerai sur l'idée de faire des paramètres variables en fonction des régions. Parce que si vous êtes en Vendée, il y a le plein emploi. Et si vous êtes à Amiens, c'est pas le cas. On marque une pause. Et puis après, je vous amènerai aussi à réagir à la position de Bruxelles sur le RSA. Si on décidait que le RSA est trop bas par rapport au seuil de pauvreté, il faudrait tout simplement le multiplier par 2, quasiment. Pour que le RSA soit au niveau du seuil de pauvreté. J'y crois pas, mais il y a peut-être un vrai sujet. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Stéphane Carcillo, responsable de la division revenu travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des économistes.
Eh oui.
Eh oui, partenaire de cette émission le jeudi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous avez publié Les discriminations au travail aux presses de Sciences Po. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, qui a coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Et Emmanuel Combe, professeur à la Schema Business School, qui publie la 16e édition de son précis d'économie aux presses universitaires de France. Je vous montre l'ouvrage.
Et avec ça, j'en vends pas, c'est désespéré.
Ah ben, vous y allez. C'est pour les étudiants de quelle
oui,
année ?
Oui, de post-bac, plaque classe pas.
Stéphane Carcillo, je vous ai lu dans Les Échos écrire tout récemment « Si on réduit d'un mois la durée d'indemnisation à l'assurance chômage, généralement on réduit de 10 jours la durée passée au chômage, c'est ça ?»
Donc, c'est à peu près l'élasticité qu'on a dans les études, la trentaine d'études où c'est à peu près bien identifié, le lien de cause à effet, à peu près bien identifié.
On ne va pas rouvrir, on a discuté de ça déjà, je vous ai entendu chez nos confrères de 28 minutes... parler de ce sujet et donner à peu près les mêmes éléments. Le gouvernement n'a pas tranché pour savoir les paramètres qui accompagneront cette réforme de l'assurance chômage. Tous les experts dont vous faites partie considèrent que c'est le paramètre. Faut-il que ce soit territoire par territoire ? Sur cette question, Olivier Dussopt a dit non. Et quand on regarde l'exemple canadien, on regarde quand même les bassins d'emploi pour dire c'est pas pareil d'être là, que là, que là, que là. Alors, on peut pas durcir autant là parce que c'est très très dur de trouver un job. Par contre là, on peut durcir beaucoup parce que Dieu sait s'il y a de l'emploi. C'est ça le vrai sujet.
Alors, je pense pas que ce soit le vrai sujet pour la
France.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Bon.
Alors effectivement, au Canada, la durée maximale d'indemnisation varie en fonction du taux de chômage observé au moment de son inscription. Donc on joue sur le flux entrant.
Et ça dépend du taux de chômage observé dans la région. Et la région, c'est pas les provinces. C'est des régions définies pour le système de chômage. Alors, dans le Grand Nord, c'est tout l'État. Et puis, au Québec, c'est beaucoup de petites régions, un peu comme nos zones d'emploi. Hein, donc, c'est un peu plus fin que ça. Dans un système où la durée moyenne d'indemnisation, la durée maximale d'indemnisation, pardon, c'est environ 8 mois en ce moment. Donc c'est très court. Ça varie entre 2 mois et demi et 8 mois. Quand le taux de chômage est très très élevé, ça va au maximum jusqu'à 1 an. Donc on est dans un système où on indemnise à l'entrée en fonction du taux de chômage sur une période de toute façon très courte. Aux États-Unis, ça dépend du taux de chômage de l'État, de sa variation et du niveau. Attention, deux critères. Et c'est sur le flux sortant que ça joue. C'est-à-dire qu'on augmente la durée d'indemnisation des gens qui arrivent en fin de droit, et uniquement des gens qui arrivent en fin de droit, en fonction de ce taux de chômage. Et ça permet finalement de traiter peut-être plus précisément le problème, qui est le problème des gens qui arrivent sans rien au moment où l'économie va mal, hein, plutôt que de traiter... Voilà. Donc, et dans un système aux États-Unis où du coup l'extension peut aller très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on a au Canada, puisqu'on peut aller jusqu'à presque 2 ans dans les périodes de crise avec un système à 2 étages. Hein. Donc on peut rajouter 6 mois automatiquement, et puis l'État fédéral peut rajouter derrière. Alors en France maintenant, donc on n'a pas cette automaticité, on réfléchit à cette modulation autour du cycle économique. D'un point de vue vraiment théorique, c'est une bonne chose à faire parce que du coup on insiste sur un objectif de l'assurance chômage ou l'autre en fonction de ce qui est le plus efficace. Quand l'économie va bien, vous l'avez dit, il faut insister sur le retour à l'emploi, c'est ce qui est le plus efficace parce que il y a des coûts d'efficacité forts de l'assurance chômage. Lorsque l'économie va mal, au contraire, il est très efficace de bien indemniser. On renforce l'effet stabilisateur automatique. Donc, sur le papier, c'est effectivement ce qu'il faut envisager. Est-ce qu'il faut le faire territoire par territoire? Ça n'a de sens que s'il y a une certaine, en fait, homogénéité du territoire. C'est-à-dire qu'il faudrait que, pour que ce système marche, il y ait beaucoup d'hétérogénéité entre les territoires que vous considérez. Du coup, vous vous dites, si je commence à moduler alors qu'il y a 16% ici et 4% là, les gens vont se retrouver dans une situation critique là où il y a 16% parce que j'ai baissé le taux. Ouais. Mais il faut qu'à l'intérieur du territoire, ce soit très homogène. Alors pour ça, ça ne peut pas être les régions. Parce que moi, j'ai regardé les taux d'emploi de l'INSEE, donc les taux d'emploi au niveau des zones d'emploi. Les zones d'emploi, c'est des toutes petites zones économiquement bien homogènes dans lesquelles les gens peuvent circuler de la maison jusqu'au travail. D'accord. Il y en a 350 en France, environ, un petit peu plus. Et ces zones d'emploi, quand on regarde ces zones d'emploi, le taux de chômage est mesuré par ces zones d'emploi. Il est relativement homogène, par définition. C'est une zone un peu économiquement homogène. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plus de différences à l'intérieur des régions dans taux de chômage que entre les régions. Donc déjà, il ne faudrait pas le faire au niveau régional, il faudrait aller en dessous.
Pourquoi pas?
Et à ce moment-là, il faudrait le faire au niveau de la zone d'emploi.
Ça 350 dire... cas.
Oui, bon, mais alors à ce moment-là, ça devient tellement petit que ça crée des problèmes d'optimisation. Parce que c'est très facile d'aller habiter dans une zone et de s'inscrire dans une autre. Alors qu'au niveau des régions, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on se dit que finalement c'était une bonne idée, mais que ça va nous emmener vers quelque chose qui est déjà très compliqué. Alors déjà qu'on va faire moduler en fonction du taux de chômage et de sa variation, déjà il va falloir quand même se poser la question, voilà. Si en plus ça change d'une région à l'autre, les gens sauront vraiment plus du tout où ils en sont. Et comme l'a dit Emmanuel il y a tout à l'heure, la clarté c'est vraiment très important. Il faut que les règles soient claires.
Et dans un pays qui est déjà régi par la défiance, où chacun pense qu'il est moins bien traité que son voisin, c'est quand même la grande caractéristique de la France, vous renforcez encore l'idée pourquoi celui qui est juste en face à 10 km. Mais j'aime beaucoup l'idée de Stéphane, c'est en fait on est pris entre la précision, donc la justesse du raisonnement, et puis en même temps ça va créer de la dissonance sociale, hein, de se dire pourquoi moi j'ai droit à ça et pas toi, et il va y avoir des arbitrages. Et puis autre point, qui va décider in fine, est-ce que ça sera une règle automatique qui est fixée ex ante en
la
disant
la météo,
par exemple,
passe du soleil à la pluie,
voilà, mais c'est quoi la météo, est-ce que ça va être un groupe d'experts, et j'ai rien contre les groupes d'experts, hein, loin s'en faut, mais qui vont donner un avis sachant que le gouvernement fera ce qu'il veut un
comme
petit peu après,
ouais.
Enfin on tourne toujours sur les mêmes problèmes, hein, qui sont un peu toujours éternels, qui est quel va être le statut de ce groupe d'experts, est-ce qu'il sera indépendant? Est-ce que ses recommandations seront... vous voyez, est-ce que ce sera une autorité indépendante?
Ça fait deux minutes qu'on parle du sujet, je suis démoralisé.
L'idée est super intéressante.
Les gens qui nous écoutent se disent, bon, on change
l'idée
rien.
L'idée est super intéressante, mais j'ai déjà appris, grâce à Stéphane, moi j'étais resté sur les départements. Il faut le rappeler que les départements, les écarts de taux de chômage, c'est 50%. Moi j'étais halluciné. Les Hauts-de-France, c'est 9,7. Je crois que la Bretagne, c'est 6,5, ce qui est bien 50% d'écart. Mais en réalité, à l'intérieur même d'un département, on a des hétérogénéités. On va créer quand même beaucoup de défiance. Hein. Pourquoi toi, qui es situé juste en face, tu as droit à plus que moi?
Bon, c'est foutu, Eric.
Non, je dis pas ça, mais...
Non, c'est foutu, alors. Mais alors, c'est foutu, parce qu'après, il faudra se poser la question, comme pour les retraites, à quoi ça sert une réforme de l'assurance chômage?
D'accord. Augmenter le taux d'emploi, alors, monsieur Ayer.
D'accord. Mais c'est pas comme ça qu'on nous la vend. Hein. C'est, on nous dit, oui, parce qu'on est en déficit, mais il faudra dire. Mais juste avant, si je peux juste donner...
C'est balèze, le déficit, actuellement. Enfin, la dette...
On a doublé
juste, avec Covid. Hein.
Si je peux compléter ce que vient de dire Stéphane sur les deux cas canadiens...
Pas trop long, parce que
mais okay, canadien et américain, je me dépêche. Et je pense que ce qui est intéressant et qui est pas souvent souligné, c'est que il y a aussi l'éligibilité. D'accord? Dans le cas canadien, vous voyez, eh ben, en fait, quand on dit en France, on a toujours le système le plus généreux, il nous faut quand même avoir travaillé 910 heures pour avoir droit à l'assurance chômage en France. Au Canada, c'est soit 400, soit 700 selon la conjoncture. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus facile quand même d'accéder à l'assurance chômage canadienne que française, même dans le
cas.
Pourquoi
pas bouger ce paramètre aussi?
Non, mais d'accord. Mais toi, on a souvent tendance à dire on est toujours.
On peut le faire.
Oui, d'accord. Mais on est toujours les plus généreux. Non, vous voyez, on accède bien plus facilement à l'assurance chômage au Canada qu'en France.
Il y a des pays beaucoup plus durs aussi.
D'accord.
Donc, bon.
Mais le Canada, on a parlé que de l'indemnité. Il y a le troisième paramètre, ça c'est le premier cas. Et dans le cas américain, vous voyez, c'est pas du tout on durcit quand ça va bien et on assouplit quand ça va mal, c'est tout, on assouplit quand ça va mal, on durcit pas quand ça va. Et je pense que le cas américain est bien plus intéressant.
On part de 6 mois. Hein.
Non mais d'accord. Mais
voilà. Je termine.
Mais c'est ça qui est important. C'est qu'il y a. Et dans le message. Et. C'est pas financé pareil. L'assurance chômage aux États-Unis, c'est la même chose. Ça ne bouge pas. L'extension, c'est payé par l'État. C'est pas payé par l'assurance. Mais ça, c'est important.
Vous voyez, c'est pas le même. C'est le cas chez nous.
Mais, alors non.
C'est payé par l'impôt. De plus en plus.
Non, l'activité partielle, ça a été payé aussi par l'UNEDIC. Donc non, donc quand c'est ça. Donc je pense que c'est important l'assurance chômage. Et là, je viens au cas français. C'est une assurance. Il faut pas que ça bouge dans tous les sens. C'est déjà contracyclique, contrairement à ce qu'on dit. C'est contracyclique déjà. C'est-à-dire que c'est le système de social qui est le plus contracyclique, parce que les recettes et les dépenses dépendent déjà de la conjoncture. Donc je suis pas sûr qu'il faille encore jouer sur ces paramètres-là. Il faut dire l'assurance, elle est telle qu'elle. Et ensuite. L'État peut, quand ça va mal, effectivement, comme aux États-Unis, aider. Alors après, on peut dire, on va durcir ces conditions. Et là, on en revient. Pourquoi on durcirait aujourd'hui les conditions?
Ah, mais j'ai pas dit aujourd'hui. L'idée de la réforme, c'est de mettre un truc à géométrie variable. Ça veut pas dire que ça va varier maintenant.
C'est aussi faire des économies entre nous, parce que. Et là, je suis en désaccord avec ce que j'entends souvent sur le système d'assurance chômage est déficitaire. Moi, effectivement, quand vous regardez les chiffres, vous dites, bah oui, il y a 60 milliards de dettes, 62 milliards de dettes, donc c'est déficitaire.
Contre un niveau habituel de 35.
Ok, mais essayons de comprendre pourquoi c'est déficitaire. Mais c'est pas déficitaire à cause de l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est des cotisations, d'accord, et de l'indemnisation chômage. Si vous regardez ça, c'est excédentaire. Ça n'a jamais été déficitaire. C'est excédentaire.
C'est déficitaire parce que ça finance Pôle emploi.
Mais voilà. Et eh ben, on en revient. On t'a lu
terminé.
Dans les échos.
C'est une vision française. Eh ben,
tu donneras ton avis. Pourquoi, selon moi, c'est déficitaire? D'abord, c'est déficitaire parce qu'on paye les intermittents du spectacle pour avoir une culture de qualité. Est-ce que ce coût-là qui est 1 milliard par an, est-ce que seuls les salariés qui ont cotisé ont droit d'aller voir un spectacle de qualité? Non, tout le monde. Les retraités, les chômeurs, les indépendants. Donc ça doit être financé par de l'impôt. Ça ne doit pas être financé par de l'assurance.
Budget de la culture.
Ce n'est pas les chômeurs aujourd'hui qui doivent financer ça.
Non mais ça c'est clair.
Vous enlevez ça. Si vous enlevez en plus le fait que Pôle emploi, l'UNEDIC verse 4,3 milliards.
J'étais resté à un peu moins, mais d'accord.
Ben oui, c'est passé à 11% depuis 2020. Ça fait 4 milliards chaque année pour financer du service public. Ça, c'est de l'impôt qu'il doit financer, ou au cours marginal. Ça fait gagner, ça, 3 milliards par an à l'assurance chômage. 3 milliards par an depuis 12 ans, ça vous fait déjà 40 et quelques milliards. Et ensuite, l'activité partielle, c'est 12 milliards. Vous regardez tout cela, vous n'avez plus de dette. Donc, se dire aujourd'hui, c'est mal géré par les partenaires sociaux et donc il faut donner ça à l'État.
J'aime bien ce qui a été dit.
Ah ben, c'est un peu
l'État
ça.
L'État veut mettre la main dessus,
mais vous voyez que c'est pas mal géré par les partenaires sociaux. Ils ont des cotisations et ils ont une assurance. l'assurance derrière, c'est équilibré. Et donc, si c'est déficitaire, c'est parce qu'on fait payer à l'assurance chômage.
Des choses qu'elle ne devrait pas payer.
Des choses qu'il ne devrait pas payer, qui devrait être payé par l'impôt. Ça fait si pas. Vous faites ça, mais ça, c'est une réforme qui vous fait dire, est-ce que c'est généreux ou pas généreux? Là, aujourd'hui, se dire, il faut taper sur les chômeurs pour financer cela, je ne comprends pas ce système.
Le raisonnement d'Éric en quelques mots, parce que j'ai plus que 14 minutes, je veux absolument donner la parole à Emmanuel Combes sur des sujets...
Justement, assez d'accord avec ce que dit Éric, mais là, le raisonnement est complètement fallacieux.
Ah, c'est terrible,
pour le coup, complètement fallacieux. L'assurance chômage, dans aucun pays, ce sont des assurances qui sont stand-alone, isolées, comme des régimes privés. Partout, c'est financé en partie par l'État et en tous les cas, très bien coordonné avec l'accompagnement, les mesures actives, le conseil... C'est jamais pensé de manière indépendante. Ça marche ensemble. Et l'État a un rôle hyper important. D'ailleurs, les partenaires sociaux ne décident des règles dans aucun pays ailleurs qu'en France. Le fait que l'assurance chômage contribue au service public de l'emploi, contribue aux mesures d'accompagnement, c'est normal.
Il y a la culture. Il y a la culture aussi.
La culture, c'est un espèce
de dossier. Eh bien oui, mais on ouvre pas ce dossier, s'il vous plaît.
C'est tout à fait normal. Donc, c'est un régime qui est structurellement déficitaire sur les 20 dernières années. 15 ans de déficit, 5 ans d'excédent. Éric peut aller le regarder, il n'y a aucun problème.
Mais c'est dans les statistiques. C'est déficitaire depuis 2008.
Depuis 2008,
qu'on a décidé de financer Pôle emploi avec.
C'est 75%, c'est déficitaire.
Non.
Ça coûte beaucoup plus cher que partout ailleurs dans les pays européens. Et donc il y a un vrai sujet. Je suis désolé, il y a un vrai sujet. Et c'est un régime qui demeure extrêmement généreux en comparaison internationale, contrairement à ce que Éric vient de faire avec une manière un peu optique, infiniment plus généreux qu'au Canada et qu'aux États-Unis, puisqu'en fait, il faut avoir travaillé 2 ans pour avoir 2 ans d'indemnisation chômage. On n'atteint jamais cette indemnisation au Canada. Il faut avoir travaillé 4 ans en Italie, 8 ans en Espagne, toute une vie aux Pays-Bas pour atteindre 24 mois. Et tous les autres pays, en moyenne, ne donnent jamais plus que 12 mois d'indemnisation. Et en France, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'essentiel des demandeurs d'emploi qui viennent s'inscrire à Pôle emploi ont droit à 2 ans d'assurance chômage. 60% du flux entrant est à 2 ans d'assurance chômage. Il y a encore 15% qui a droit à 36 mois parce qu'ils sont des seniors. Donc vous avez presque 80% des personnes qui sont à cette durée maximale extrêmement longue, quelle que soit la situation économique. Donc c'est un régime très protecteur. C'est très bien quand l'économie va mal, évidemment. Mais c'est un régime qui coûte extrêmement cher aux salariés, parce que c'est eux qui paient, à l'État, parce qu'il y a des déficits, et c'est un régime qui n'est pas bien calibré. Voilà. Bon. Donc, il y a vraiment un vrai gros sujet, et c'est une vision extrêmement française que de penser que ce régime devrait être stand-alone. Ce régime, il doit être coordonné avec les minima sociaux, il est financé en partie par l'État, il doit financer aussi l'accompagnement, parce que ça fait partie de ses missions, c'est d'être totalement coordonné. Il ne vit pas en vase clos comme une assurance privée. Ça n'est pas possible. Et il fait énormément de redistribution, en plus, ce système. Donc, ça n'est pas une pure assurance, contrairement à ce qu'on pense. Et ça n'est nulle part une pure assurance.
Bon, commençons par changer de nom.
Bon, alors, on va commencer par attendre que ça avance, ce sujet, parce que là, sinon, bon.
C'est pas parce qu'on parle en dernier qu'on a raison.
Ah non,
et
non
donc, dire que ce qu'a dit Elodote est fallacieux, c'est pas vrai. Il y a un autre point de vue. Il y a un point de vue qui est l'assurance chômage et les chômeurs doivent payer un certain nombre de dépenses et on les caricature en disant c'est vous qui coûtez trop cher à la société. Moi, j'ai un autre point de vue en disant certaines dépenses doivent être plutôt payées par un grand nombre de personnes en dehors des salariés. C'est un autre point de vue. Je conteste l'histoire de fallacieux parce que c'était à l'équilibre en 2008. Curieusement sans déficit, depuis qu'on demande à l'UNEDIC de payer 11% à Pôle emploi pour financer un service qui est ouvert à tout le monde et pas uniquement aux chômeurs qui ont cotisé.
J'admets que ça méritait le droit de réponse et je ne suis pas du tout du genre à croire que celui qui a eu le dernier mot avait raison. Et moi, je vous prends un pari, c'est que dans 2 ans, ce n'est plus une assurance, c'est un service d'État complètement piloté par l'État, les partenaires
sociaux sont exit. Et ça sera financé par de l'impôt. Et d'accord. Eh bien, ok, mais ça sera beaucoup plus clair.
Mais dans les différents pays, les contributions sociales contribuent à l'assurance chômage, et l'impôt aussi en partie. Mais c'est pas parce que c'est payé par des contributions sociales que ça doit être un régime autonome et privé. Les contributions sociales, c'est de l'impôt.
Non,
c'est,
ah bah
c'est des prélèvements obligatoires.
Ça ouvre des droits. Mais oui,
non.
Mais c'est.
Alors, oui,
mais
ça, ça ouvre des
alors,
droits.
Ça, pour le coup,
ça ouvre,
c'est faux.
Non, mais ça, ça ouvre
c'est
des, faux. Non, mais ça ouvre
dans
des
les
droits.
Prélèvements obligatoires, il y a les cotisations et les impôts. Si on n'arrive pas à faire cette distinction, on a perdu dans
mais
le
droits. Mais ces droits, ces droits sont à géométrie variable, peuvent être modifiés. Je suis désolé. Voilà.
Mais c'est pas pareil, une cotisation et un impôt.
C'est pas pareil. En tout cas.
Oui, mais c'est un prélèvement obligatoire.
C'est un prélèvement obligatoire, mais là.
Il n'y a pas de raison de penser que l'État ne doit pas décider aussi de ses règles. Notamment parce que ça joue énormément sur les autres dépenses publiques.
C'est deux points qui se tiennent, mais voilà. Il n'y a pas un qui est faux et un qui est juste.
L'architecture en fonction de cotisations ou d'impôts et l'état d'esprit même du système est quand même effectivement très différent. Je veux absolument vous entendre, Emmanuel Combes, sur un sujet qui m'intéresse et il vous intéresse aussi, c'est la politique industrielle. On a vécu un événement quand même important hier, Elisabeth Borne s'est rendue dans l'Oise sur un centre, enfin, dans un centre de R&D de Plastic Omnium et elle a désigné les 10 entreprises qui allaient bénéficier de 2,1 milliards d'euros de subventions pour développer leur projet hydrogène. Et là, on est vraiment sur... On dit toujours, il n'y a pas de projet, le monde d'après. On est sur le monde d'après, et la question est, est-ce que là, on est sur une bonne et une vraie politique industrielle c'est où l'État joue un rôle de bonne qualité avec de la dépense efficace?
La réponse est oui sur le principe. Après, là, tout est question de gouvernance. Mais pour relier à tous les sujets qui ont été abordés, c'est le même sujet. Alors, on en parle moins parce qu'on parle de très très long terme. C'est moins médiatique, mais on est toujours sur cette même idée de politique de l'offre. Hein. Accroître la quantité de travail, assurance chômage, retraite, et là on est sur de l'investissement, hein, l'investissement dans l'avenir qui va lui-même créer de la richesse. C'est intéressant parce qu'en réalité cette politique industrielle, elle est assez récente en Europe. Moi c'est ça qui me frappe. Elle date de il y a 4-5 ans, hein, on va dire l'arrivée de notamment Thierry Breton. Car en réalité ce qui se passe en France n'a pas été décidé en France, il faut bien le dire. Ce sont des politiques européennes. Pour ceux qui douteraient de l'intérêt de l'Europe, là, on voit la force de l'Europe qui est en train, à mon avis, de naître. On a une vraie Europe industrielle qui est en train de naître avec les fameux, on appelle ça les PIEC, hein, des programmes d'intérêt commun. Il y en a eu dans les semi-conducteurs, il y en a eu dans les batteries électriques et aujourd'hui, dans l'hydrogène, il y a même deux projets PIEC.
Bah, l'Europe se réveille en ce moment, sur plein de sujets.
Ah, c'est plus que se réveiller. Et c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que pour un économiste, la question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert tout ça? En clair, pourquoi le privé ne le fait pas seul? Alors d'abord, ce sont des partenariats public-privé. C'est intéressant, c'est l'État met la main à la poche, mais également le secteur privé. Et en fait, on retrouve la bonne vieille théorie économique, comme quoi l'économie, ça marche. Il y a une défaillance de marché. La concurrence seule, le marché seul, ça ne marchera pas. Moi, je vois au moins 6 raisons. Première raison, quand vous lancez dans l'hydrogène, ce n'est pas un produit, c'est un écosystème. Bah, il faut des batteries, d'électrolyse, il faut des réservoirs à hydrogène, des piles à combustible. Et donc, il faut que les entreprises se coordonnent entre elles. S'il n'y a pas quelqu'un qui donne l'impulsion, personne ne fera rien. C'est l'œuf et la poule. Donc d'abord, il y a un problème de coordination. L'État, il est là pour lancer un grand programme. Secondement, vous avez l'idée qu'il y a une prise de risque. On ne sait pas si ça va marcher. On est quand même dans des activités à forte intensité à recherche-développement. Donc, il paraît logique qu'une partie du risque puisse être supportée par l'État. Un peu comme le vaccin au moment du Covid. Souvenez-vous, le gouvernement américain qui avait dit, voilà, je mets 10 milliards de dollars sur la table parce que je considère que trouver un vaccin n'est pas une certitude. Troisièmement, l'horizon temporel est quand même assez long. On parle d'horizon sur 10 ans, 15 ans. Il n'est pas complètement intuitif que le privé seul puisse se projeter. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire.
Mais bloquer son argent
après
15
tout,
ans...
Le Nasdaq, ça existe et ça marche très bien. Mais il est pas évident que ça suffise toujours, surtout quand on est dans une innovation assez radicale. Quatrièmement, on est quand même sur des investissements qui sont très en amont. Recherche, développement, infrastructure, donc ça ne pose pas véritablement de problème de concurrence. J'ai même envie de dire, grâce à cette politique industrielle, vous allez créer de la concurrence demain, puisque vous allez créer un marché. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup dans cette politique, ça rappelle ce que font les Américains, ce qu'ont fait les Japonais il y a 30 ans, c'est qu'on ne désigne pas à l'avance le vainqueur. On ne vous dit pas, telle entreprise va être en charge de la politique hydrogène. On vous dit, voilà, qui veut participer à ce grand programme européen? J'ai regardé, il y en a 29 entreprises sur ce seul programme hydrogène. En clair, on crée de la concurrence entre les entreprises. Et donc, politique industrielle et concurrence, non seulement ça ne s'oppose pas, mais j'ai même envie de dire, c'est la politique indus en amont qui va vous créer ensuite de la concurrence en aval.
On fait plus du top-down, mais du bottom-up.
Ah oui, et puis le dernier argument, c'est que si vous avez une filière hydrogène qui naît, il y aura des profits pour les entreprises privées et des emplois, mais il y aura aussi des effets externes. sur toute l'économie. Et là, on retrouve notre histoire de croissance économique. Hein. Les investissements ont un profit privé, mais ils ont aussi des retombées positives sur toute l'économie. Et ça, c'est pas pris en compte par définition par l'investisseur privé, ce qui est assez logique. L'investisseur privé, il regarde son profit. Donc, pour toutes ces raisons, on se dit, mais finalement, c'est assez logique. Et c'est important, ça, parce qu'on a toujours cette idée d'opposer politique industrielle à concurrence. À mon avis, c'est un faux débat. Sauf si on considère que la politique industrielle, c'est marier deux entreprises pour qu'elles deviennent un géant. Là, en fait, on fait un peu l'inverse. On n'a pas de géant, parce qu'on part de zéro. C'est la page blanche. Et on va simplement permettre, peut-être demain, à des entreprises européennes de devenir des nouveaux géants. Donc, vous voyez, c'est intéressant, ces deux visions de la politique industrielle. Ce n'est pas de la consolidation, c'est plutôt permettre, grâce à des grands programmes, très en amont, de voir émerger demain des nouvelles pépites.
Philippe Aguillon aurait été là, il aurait bu du petit lait. Parce que je crois que là, vous êtes...
C'est la théorie économique de base, mais, oui, mais ça marche, l'économie. Hein.
Oui, mais... expliquer que ce que l'on fait là, c'est on tire les enseignements de ce que l'on n'a peut-être pas fait par le passé, l'idée qu'on allait aller, je vais vous faire une super entreprise publique en monopole qui va tout faire toute seule. Eh ben là, on fait pas du tout ça.
Non.
Eh ben c'est pas mal de ne pas faire ça parce que.
Et ça marche. Hein. Enfin, je veux pas ouvrir une parenthèse trop longue, mais on a l'expérience des Japonais. Hein. Les Japonais, et c'est très intéressant. Chaque fois qu'ils ont ciblé sur une politique industrielle en désignant le vainqueur à l'avance, ça a été un échec. Et chaque fois qu'ils ont mis de la concurrence à l'intérieur du secteur, notamment l'automobile, on oublie de dire qu'il y a 10 constructeurs automobiles au Japon. 10 constructeurs automobiles, ça a plutôt réussi. Donc c'est intéressant. La concurrence est un moyen pour atteindre un objectif de politique industrielle qui, en plus, est un objectif de création de marché.
Impeccable démonstration, j'adore.
Je sais pas
si. Et puis, je suis content qu'on parle de business, de politique industrielle. On fait beaucoup de macro ici, c'est logique, mais. J'aimerais vous faire réagir, allez, 3 minutes. J'ai été frappé par ce que dit Bruxelles sur le RSA, Éric Heyer. Bruxelles, libéral. Le RSA, enfin, je prends le RSA, mais il parle à tous les pays d'Europe. Hein. Vous avez des revenus minimums trop bas dans la situation que nous vivons. Les gens vont devenir pauvres, il va y avoir de l'exclusion sociale. Sous-entendu, il va y avoir des troubles sociaux. Et le RSA, nous dit Bruxelles, il est beaucoup trop en dessous du seuil de pauvreté. On est quoi, à 550 euros pour 1086 euros, je crois, le seuil de pauvreté. Et, il est beaucoup trop dur à obtenir. Donc les publics concernés sont souvent des publics peu avertis. Et pour eux, c'est un frein objectif. Et puis, vous ne le donnez pas aux jeunes, c'est juste une erreur.
Mais
ça vous inspire quoi ? L'idée qu'il faut remonter le RSA, le simplifier et le donner au moins de 25 ans ?
Oui, rapidement, il y a deux points. Il y a le changement un peu de discours de la Commission européenne, mais qui est assez, qui est assez nouveau, mais sur plein de domaines. C'est-à-dire qu'avant, si je caricature un peu, ils nous disaient, il fallait délocaliser au maximum pour avoir les prix les plus bas, il fallait déréglementer au maximum le marché du travail pour avoir des salaires les plus faibles, il fallait favoriser les distributeurs par rapport aux producteurs pour avoir les prix les plus bas, il fallait aller dans les énergies qui coûtaient le moins cher. Donc en gros, tout était mis pour avoir les prix les plus bas, pour que le consommateur ait le pouvoir d'achat le plus élevé. C'était ça un peu, j'ai caricaturé.
Mais non, mais c'est pas gros, caricaturé,
la doctrine.
C'est la philosophie de la mondialisation.
Aujourd'hui, ils nous disent, on parlera du RSA, mais ils nous disent, il faut relocaliser parce qu'il faut retrouver la souveraineté industrielle, médicale, etc. Donc, relocalisons, donc les prix vont être plus élevés. Ils nous disent, il faut commencer à réfléchir aux indépendants, aux salariés de seconde ligne, donc il faut quand même commencer à augmenter un peu les salaires pour certaines catégories, d'accord ? Il va falloir, en gros, maintenant, commencer à parler des agriculteurs et des producteurs et pas que des distributeurs. Donc, et là, le RSA. Donc, ils vont jusqu'au bout de l'histoire en disant on sort de la stratégie un peu low cost où le pouvoir d'achat était donné par des prix les plus bas. Peut-être que le pouvoir d'achat peut être aussi donné par des revenus un peu plus élevés, mais donc ça veut dire que les prix vont être un peu au-dessus. Donc, vous voyez, on n'a pas parlé d'inflation, il fallait quand même en parler un peu dans cette émission. C'est que globalement, les prix vont être plus élevés aussi demain par cette stratégie. Et là, c'est vrai que dans le cas français, ce qui est sans doute le plus honteux, moi, quand je vois le RSA, c'est le taux de non-recours. C'est-à-dire que dans toutes ces aides sociales, le taux de non-recours tourne aux alentours de 50%. Ça dépend les aides. Mais ça veut dire que, systématiquement, la moitié des personnes qui auraient droit ne le demandent pas. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Mais c'est ça, à ça, il faut s'attaquer. C'est pas forcément augmenter ces aides, mais il faut que tout le monde y ait droit. Est-ce que c'est simple ? Est-ce que augmenter la simplicité ou dire, c'est pas honteux d'être dans un minima social ? Je pense que ça, c'est intéressant.
On a 30 secondes, si vous voulez dire un mot là-dessus, Stéphane Carcillo. Pour les moins de 25 ans, le rendre plus simple et augmenter le montant ? Non, la... Tu donnes 30 secondes avec trois questions monstrueuses.
Ouais, non. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec le fait que le taux de non-recours, c'est un vrai sujet. Et du coup, la solution, c'est l'automaticité du versement. Donc ça, c'est une bonne solution. J'ai toujours pas compris la raison d'exclure les moins de 25 ans de ces dispositifs. Nulle part, on les exclut. Donc, il faudrait effectivement prévoir un accès beaucoup plus simplifié. En revanche, aujourd'hui, les minima sociaux sont revalorisés par l'inflation de manière régulière. Le vrai sujet de la pauvreté, dans aucun pays, les minima sociaux ne permettent de dépasser le seuil de pauvreté, qui est un seuil relatif, je vous le rappelle. 50% du revenu médian, ou 60% selon les mesures. Et donc, le sujet, en fait, en France comme dans d'autres pays, c'est le nombre d'heures travaillées, c'est l'accès à l'emploi, le vrai sujet de la pauvreté. On ne va pas résoudre la pauvreté uniquement en augmentant les minima sociaux.
Mais en augmentant le taux d'emploi.
Voilà.
Pourquoi c'est déjà fini? Et on avait la concurrence FTF, M6. Ah, il y avait plein de trucs. Bon, merci à vous trois. Hein. Stéphane Carcillo pour le Cercle des économistes, comme chaque jeudi, Eric Ayer, Emmanuel Combes. Rendez-vous demain à 9h.